Accompagné de Jonathan Paradis et Pierre-Alexandre, du même nom de famille que moi.
Allô!
Allô, 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 allô. Hey. Comment ça va, les garçons?
Ça va bien, ça va bien. Fin d'année, fin de session pour moi. Je suis encore jeu, j'aime ça. C'est quand même fun d'être encore jeu.
Yes, un gros poids de relâcher.
C'est que vous voyez pas présentement en studio, mais j'ai pogné la chaise la plus confortable. Là, je suis confortable pour faire
ouais,
fin d'année.
Et tu t'es fait un cocktail Rockstar à Maroula.
Je vous le conseille. C'est le Rockstar aux pommes vertes avec un amaretto caramel. C'est comme une pomme au caramel. C'est bon, t'as de l'énergie, puis t'es un peu cocktail.
Si je vous ai réunis aujourd'hui, les garçons, c'est pour faire une rétrospective de l'année 2021 dans le monde du sport. On a quoi? On a passé presque, nous, là, 9 mois ensemble sur les ondes. Ben, même plus que ça, en fait, là, on a commencé peut-être en février ou en mars à faire cette émission-là. Donc, à peu près 10 mois. On a couvert à peu près des événements sportifs pendant 10 mois. C'est pas si pire. Hein?
Un bon laps de temps.
Un bon laps de
temps.
Moi,
je compte pas.
Tu comptes pas.
Je te laisse ta grosse job. Grosse job sale.
Bon, non, ça va quand même. Mais, hey, il s'est tellement passé de choses cette année qu'on va essayer de, sans faire un ordre chronologique de tout ça et une ligne du temps, on va essayer de parler des événements qui nous ont marqués.
Oui.
Propre à chacun, mais aussi de façon générale. On va toucher au tennis, évidemment, au soccer. International, mais aussi local. Évidemment, on va parler de hockey aussi. Puis, bien entendu, de baseball.
Effectivement.
Mais aussi de course automobile un petit peu aussi. Non, on va toucher à peu près à tout ce qui se fait. Presque.
Yes. Un petit 30 secondes sur la lutte. La meilleure signature de l'année, ça a été CM Punk de AEW. Point final. C'est le segment lutte, c'est fait.
C'est fait, on parle plus de lutte. De la chenoute. Avant qu'on commence, les gars, je vous propose d'aller écouter une pièce de Noël, mais relative au sport. Écoute, j'ai pensé à tout, parce que la thématique à conduite antisportive, c'est lorsque je mets des tunes, faut que le nom du Ben ou le nom de la tune ait un certain lien avec le sport. Et là, on va écouter Boxing Day Blues de Courtney Barnett.
Ooh.
On s'en rejase au retour de la pause. Vous écoutez. Conduite antisportive!
Like two icebergs in climate change.
C'était Courtney Barnett avec Boxing Day Blues sur les ondes de Chiz 94.3. Vous écoutez la spéciale de Noël de conduite anti-sportive. Je suis toujours en compagnie de Jonathan Paradis à ma gauche et de Pierre-Alexandre Tremblay à ma droite. Les gars, on commence par quoi? On pourrait, là, je vous propose, je vous lance ça comme idée, là, on pourrait parler de soccer en premier. Parce que je sais que vous êtes pas si chaud à l'idée.
Moi, je suis chaud à l'idée.
T'es chaud?
Là.
Oui. T'es chaud, Pierre?
C'est la marée tôt.
D'accord. Ouais, il est déjà tôt pour être chaud. Ouais. Donc, effectivement, on peut parler de soccer. Ce fut une super belle année à prendre quand même le... On va se le dire, là. Ce fut une année assez étonnante pour le CFM, qui a changé de nom aussi. Hein?
Qui a changé de nom.
L'Impact de Montréal est devenu le Club de foot Montréal.
Une nouvelle rivalité aussi est née à Montréal. Montréal contre Montréal.
Montréal contre Montréal, oui. C'est fans contre le club. Et justement, cette rivalité-là a eu finalement la tête de Kevin Gilmore, qui avait été engagé comme président du club. Vraiment, il s'est tiré dans le pied, notre ami Kevin. Cette refonte de l'image de marque a fait couler beaucoup d'encre, disons ça, autant sur les réseaux sociaux que dans la presse. Mon Dieu Seigneur.
Ça a été un bon sujet de conversation ici. Nous aussi, on en a parlé beaucoup.
On en a parlé quand même pas mal. Ce logo-là a fait jaser énormément. On les appelle les Snowflakes maintenant, hein? Cette espèce de club optimiste, de centre de ski, cette espèce de flocon-là qui a pas vraiment rapport. On se demande d'où ça vient, pourquoi. En fait, pourquoi avoir justement fait ce changement d'image de marque, alors que le logo de l'Impact datait de son entrée en MLS, là, c'était pas si vieux. Là.
Non, effectivement. Puis en même temps, c'était tous les choix décisionnels qui étaient faits par les hauts dirigeants du club de foot de Montréal a été quand même douteux. Je pense à la lettre aux fans qui ont parlé peut-être si vous n'êtes pas content, on va déménager. C'est une bonne manière de rester avec sa foule, avec ses fans. On a des belles critiques de main, puis ils disent hey, arrêtez de chialer, sinon nous autres, on
déménage. Ah oui, les menaces de Joey Saputo.
Vieille mentalité.
De déménager le club. Ah oui, c'était une relation tiraillée, là, vraiment toxique entre les fans et une équipe professionnelle. C'est rare qu'on voit ça. En fait, je me demande, j'ai pas vraiment vécu de grosses dualités comme ça là, à travers des équipes que je suivais, du moins, là, où j'étais partisan, mais merde. C'était le bordel à Montréal!
Non, c'est triste, considérant que c'est notre équipe locale ici, puis je veux dire, comment ça a été reçu par les partisans, puis...
Ouais, c'est le seul club de soccer professionnel au Québec. Prenons son soin.
Non, on a essayé.
Et la direction, sentez-vous privilégié aussi.
On essaie de s'étamper un peu de la même identité que les autres. On sait qu'il y a beaucoup d'équipes là, qui ont ce fameux, comme Toronto aussi.
Ouais.
L'Impact, je crois que c'était différent. Ça avait sa sauce.
Pis, exactement.
On a un peu perdu ça avec.
Ben oui. Puis c'était un. C'était un nom d'équipe bilingue aussi, ça a autant de percussions, de puissance en anglais qu'en français. Je trouvais que c'était un bon nom. Bref, ça c'est décevant. D'ailleurs, on pense à Columbus qui a aussi changé de nom, mais qui est revenu au Crew temporairement parce qu'ils ont écouté leurs fans, eux. Alors que le Columbus
Crew... très différent la relation fan-administration. Là.
Mais reste que c'est quand même un nom assez douteux, le Crew de Columbus. Je crois qu'après le Real de Salt Lake City,
ouais.
C'est probablement le nom que je trouve le plus spécial.
Ouais. En fait, c'est des pastiches de grands clubs européens, là, comme le Real Madrid, tu sais, mais oui, effectivement, ça n'a pas rapport. Somme toute, dans cette saison pleine de rebondissements, l'Impact a bien fait.
Oui.
Contre toute attente, j'étais le premier à être pessimiste, là, vous vous rappelez, en début de la saison, pendant la saison morte cet été, j'avais aucune foi en ce club-là. Puis finalement, écoutez, ils ont joué un match de barrage pour les séries éliminatoires. C'était pas une saison catastrophique, loin de là même. Il y a eu plein de bons flashs. On a eu l'éclosion de Jordi Mihailovic, Kamal Meller en défense centrale, un des meilleurs défenseurs de la Ligue cette année, dans la MLS.
Ils ont passé très très proche, je pense, de aussi se qualifier.
C'est ça, ils sont venus à un match de barrage là, de se qualifier. Fait, ouais, bravo au CFM, même si votre nom d'équipe est...
Puis j'aurais cru avoir un rebranding. On va peut-être en avoir un aussi d'ici la prochaine année.
Peut-être. Mais, écoutez, surtout avec le départ de Gilmore, mais on a annoncé aussi là, récemment que le club n'allait pas rechanger de nom.
Non, je pense qu'en face, va se faire plus sur le terrain. Puis.
Yes. Sinon, sur la scène internationale, ce fut aussi de moments légendaires pour la sélection nationale canadienne masculine qui, contrairement à l'équipe féminine, bat de l'aile depuis plusieurs années. Par contre, là, effectivement, on voit un certain renouveau, une révolution avec plein d'excellents jeunes comme Alphonso Davies.
Oui.
Écoutez, Carl Lahren, qui est un des meilleurs buteurs en Turquie en ce moment. Pareil pour Jonathan David, qui brûle la Ligue 1 en France avec Lille, un des meilleurs buteurs cette année aussi. La fondation du Canada, qui a passé par un entraîneur, John Erdman, qui était justement l'entraîneur de la sélection féminine. Il a mis le club à sa main et finalement, ben, on a un des meilleurs clubs, sinon le meilleur en Amérique du Nord. Puis dans l'Hexagone, là, donc dans la CONCACAF avec l'Amérique centrale.
Grosse victoire qu'on a depuis le début pour la CONCACAF.
Écoute, on est somme toute presque qualifiés, là, à moins d'un gros revirement de situation pour la Coupe du Monde au Qatar. Coupe du Monde il y a, en tout cas, bref, là, ça c'est d'autres points, mais le Canada qui a battu le Mexique, un peu plus tôt, là, au mois de novembre, une victoire historique à Edmonton, dans la neige, à moins 10, moins 15 degrés. Un doublé de Carl Lahren, une victoire de 2-1. Puis ils n'ont pas volé du tout ce match-là. Sérieusement, c'était un match contrôlé par le Canada de A à Z contre une puissance mondiale, le Mexique. J'étais levé sur mon siège, dans mon divan.
Dans des circonstances un peu...
C'était fantastique, ouais. Vraiment, là, bref, je suis encore subjugué, j'ai même pas de mots.
Les deux prochains matchs, il reste le Guatemala, le 22 janvier prochain, le 27 contre l'Honduras, et le 30 janvier, c'est là qu'on devrait savoir si on est qualifié ou non.
Ouais.
Gros match contre les États-Unis qui va se passer à Hamilton, en Ontario.
Tu vois, effectivement, Honduras et Guatemala, c'est très prenable. Puis historiquement, le Canada, dans les dernières années, a bien fait, a eu de bons résultats contre ces clubs-là. Par contre, contre les États-Unis, c'est toujours difficile.
On a fait un 1-1 au dernier match.
Ouais, c'est ça. Donc, j'ai hâte de voir.
C'est long comme processus de qualification. Là, je sais pas si la COVID non plus va pas venir jouer brouiller les cartes, puis encore repousser le processus encore plus loin. Mais bon, au moins, on est pratiquement assuré que le Canada va avoir sa place.
Ouais, effectivement. J'ai vraiment hâte de suivre ça, les gars. Mais on en a parlé un petit peu, Jonathan, aussi, peut-être quelques semaines, un mois et demi, peut-être, là, de la qualification justement du Canada, là, alors que le Canada venait de gagner contre le Mexique. Ça m'excite pas mal, Colin Bean.
Pas mal. La dernière qualification du Canada en tournoi mondial, ça rapporte à cela de France en 1996 qu'on a gagné.
Ça fait un méchant bout. Et c'est probablement la meilleure édition du Canada depuis ce temps-là. Sinon, du côté du vieux continent,
la coupe n'est pas de retour à la maison.
Tous les auditeurs anglais, c'est pour vous, ça.
Ouais. Il y a ça aussi. Ce qui m'amenait à jaser du Ballon d'Or qui est remis au meilleur joueur de foot de la planète. Donc Lionel Messi, argentin, que vous connaissez probablement, du moins de nom, a remporté son 7e Ballon d'Or en carrière. On dirait que c'est devenu en fait une... C'était une course à deux pendant longtemps entre Cristiano Ronaldo et Messi, alors qu'il y avait plein de bons candidats à chaque année. Je pense à Mohamed Salah il y a quelques années, l'Égyptien avec son parcours avec Liverpool. Il méritait vraiment peut-être un podium, mais même une première place au Ballon d'Or. Là, cette année, c'était Robert Lewandowski qui le méritait. À chaque année, il y a des controverses là-dessus. C'est vraiment les médias qui décident de ce prix-là.
Non, en même temps, c'est bon. C'est une question d'opinion.
Maintenant, il se casse pas la tête, c'est Messi. C'est Messi tant ou aussi longtemps qu'il va jouer pour FC Barcelone. T'sais. Bref, c'est con. C'est très con. Donc, Robert, tu le méritais. C'est tout. Voilà. C'est ce qui fait le tour de la planète foot.
Un gros top 5. Je n'avais pas vu à peu près c'était qui les sélections présentement pour le Ballon d'Or. Oui, il y a Lewandowski en deuxième position. Origo en troisième. C'est comme ça se prononce? Jorginho qui joue pour le Chelsea.
Ouais, Jorginho. Spécialiste des coups francs.
Karim Benzema en quatrième place et N'Golo Kanté.
N'Golo Kanté qui est un maître au milieu de terrain. Là, c'est un bœuf, c'est un cheval de guerre. Ça n'a pas rapport, ce gars-là. Il est surhumain. Mais oui, donc il y a plein de. À chaque année, il y a plein de bons joueurs qui le méritent. Je suis vraiment content qu'on l'ait donné à Luka Modric il y a deux ans, là, alors que justement la course était au plus fort entre Ronaldo et Messi. Mais sinon, le reste du temps, c'est une formalité. Ça va à Messi. C'est plate. Les gars, est-ce qu'on parle de hockey?
On pourrait.
On va faire ça parce que, le Canadien a eu un sacré beau parcours. On y croyait, hein? On y croyait. À la Sainte-Flanelle.
Je crois qu'il y a été
au printemps dernier, à l'été dernier. Comment?
À chaque série qu'on a eue l'année passée, je pensais qu'elle était éliminée. Sauf Toronto, que j'ai dit souvent la saison passée, ouais, que Toronto est un vieux mot amérindien qui veut dire être éliminé en 7. Et encore cette fois cette année, ça m'a donné raison. Moi, personnellement, Canadien, c'était un très beau parcours. Ça a été vraiment le fun, mais contre Tampa Bay, là, j'ai arrêté d'y croire.
Ouais. Toi, Joe?
Je serais curieux de re-entendre nos prédictions pendant les séries.
Ouais, ouais, ouais.
Parce que je crois pas que j'aurais prédit une aussi grande conquête, mais sans farce, c'est blanc et noir comparé à cette année. C'est
tout à fait
tellement différent. Mais l'an passé, ça a été beau à voir. Je crois que ça a donné un peu de vie aux Canadiens. Mais en fait, je trouve que là, ça fait que la pente est on tombe de plus haut.
Ouais,
c'est ça. Mais je veux dire, jamais je vais être
amer,
ouais, c'est ça, de ça. Je veux dire, une finale de Coupe Stanley, je veux dire, contre les Maple Leafs, l'Avalanche, des bonnes équipes quand même.
Ouais, les Maple Leafs, Winnipeg,
je veux dire,
Vegas.
Vegas, et on a le seul trophée qui manquait dans le répertoire du Canadien de Montréal, soit le Clarence Eds Campbell, soit remis au vainqueur de l'Association de l'Ouest. Donc, félicitations à Montréal pour sa première fois.
C'est vrai, hein?
On a gagné pour la première fois de notre vie ce trophée-là.
Ça n'a pas rapport. Mais, oui, je me souviens, moi, de mes prédictions là, au printemps dernier. J'avais dit Toronto en 6. En première ronde. Donc, tu sais,
mauvais départ.
Ben oui, effectivement, mais personne n'y croyait, là. On est. En fait, dans une saison régulière conventionnelle, le Canadien n'était même pas de la course printanière, là.
Non, clairement. Puis même les experts, je me souviens.
Les divisions, on a joué, je pense, 10 fois contre Vancouver, 10 fois contre Calgary. C'était une saison fuckée, là. Tout à fait hors norme. Et ben, je pense que le Canadien en a profité. C'est un bon timing. Après, le Lightning était juste trop fort. C'est juste ça.
C'est des équipes. Une fois que tu es qualifié en série, ça n'est qu'un. Une fois que tu es qualifié en série, tu peux avoir une bonne drop, tu peux avoir une bonne séquence, puis gagner la Coupe Stanley.
Ben oui.
On va en rejaser un peu plus tard avec une autre équipe qui a gagné cette année.
Mais oui.
Dans la.
Tes grands honneurs
préférés.
Ouais. Mais oui. Comment dire? Je pense que le Canadien a eu.
Il y a eu beaucoup d'embûches aussi, on va se le dire. Je vais en parler un peu plus tard dans mon palmarès d'entraîneurs renvoyés, le Canadien figure parmi ses, ses entraîneurs renvoyés, donc ça a dû aussi ébranler l'équipe au niveau... on s'entend, c'est pas rien. Là, même en ce moment, dernièrement avec Marc Bergevin, cette nouvelle era qui commence, j'ai hâte de voir vers où on s'enligne, vers ça. Un directeur général aussi qui va être annoncé sûrement après les fêtes, début janvier.
Parce que là, Jeff Gordon a un peu trop de job, là. C'est ça.
Ouais, mais là, avec le congé, on a annoncé que le Canadien est en congé avec plusieurs autres équipes aussi. On a annulé toutes les parties frontalières aussi. Fait que Jeff Gordon va avoir le temps.
Ouais, tout à fait.
Le temps en masse de chercher son DG avec son comité au grand complet.
Tout à fait, tout à fait. Mais bref, pour en revenir aux Canadiens et à leur course en série, je crois que les étoiles étaient alignées dans un sens où, mis à part Toronto, là, ça c'était vraiment, je veux dire, tout à leur honneur de clencher un club aussi puissant à l'attaque. Mais le premier match contre Winnipeg, le coup de cochon de Mark Scheifele à l'endroit de Jake Evans, Scheifele qui est suspendu pendant 5 matchs après ça. C'est un peu la dynamite de cette équipe-là, le dynamo. Là, si on veut, c'est lui qui met le feu à la paille. Ça a bien fait. C'était vraiment ça a crissement bien fait.
Éliminer Winnipeg en 4 matchs.
Hey, ridicule. C'était en 5, je crois. En
4.
On a clenché Winnipeg en 4. Hein.
Scheifele est pas...
Scheifele est pas revenu, c'est ça. C'était mal. Non, pour vrai, ça...
C'est une grosse béquille quand même pour Winnipeg, mais à l'avantage du Canadien, heureusement.
Puis Vegas, quelle belle victoire aussi.
Mon meilleur moment cette année de sport, je crois que ça a été la victoire du Canadien le jour de la Saint-Jean-Baptiste contre Vegas. Gros moment quand on est qualifié.
Arturi Lekkonen qui marque en overtime. C'était magique. C'était magique. Pour vrai, en tout cas, moi qui est né en 93, après la Coupe Stanley, J'avais jamais vécu un aussi beau parcours du Canadien en série.
Ouais, moi aussi, je dirais de mon vivant. Là.
Ouais, c'est, aussi.
C'était une de mes plus belles
montées dans l'hockey.
J'étais tout petit, mais j'ai pas assisté. Mais je crois que c'est en égalité avec le printemps à Lac.
Le printemps à Lac, oui. Non, pour vrai, c'est, j'avoue que... Par contre, en termes de... Ouais, on s'est rendu moins loin cette année-là. Par contre, on s'est fait battre par Philadelphie en finale d'Association de l'Est.
Ouais,
puis c'était même pas serré, là.
Non, c'était pas serré.
Oui, Alak a clenché Pittsburgh et Washington. C'était super, mais.
On a battu Ovechkin et Crosby back-to-back. Ouais. Ça, c'était un gros moment.
Ouais, vraiment.
Là, j'ai adoré cette série-là. C'était vraiment le fun. J'y croyais. Mm. Mais c'est juste que j'y croyais pas. J'ai jamais vraiment cru aux Canadiens. Je suis juste content qu'ils se rendent plus loin. C'est un peu ça. Même rendu en finale, j'ai fait non, ils vont se réunir. Tandis qu'avec le printemps à Lac, j'y croyais.
Le printemps à Lac, ouais. C'est effectivement très, très chouette.
Mais encore une fois, les circonstances, des divisions, divisions canadiennes, du format des séries, tout. Il y a même 12 équipes qui ont été qualifiées, je pense, dans les séries. 12 sur 32.
4 équipes par.
Puis c'était la 12e, le Canadien, ouais. Qu'on commençait, je crois. C'est. Tu sais, je veux dire, ça les a aidés, là. C'était
vraiment
une grosse poussée dans le dos.
Tout à
là.
Fait. Tout à
Mais
fait.
C'est tout à leur honneur, puis leur enlève rien, quand même.
Ben oui, exactement. Exactement. Hey Joe, je te suggère, en fait, d'y aller tout de suite avec les entraîneurs et directeurs généraux pendant qu'on est dans le hockey.
Ben, ouais, parce que c'est dans le hockey que ça s'est jeté de tout bord, je dirais.
De tout bord, de côté.
Ouais, c'est pas nécessairement en ordre chronologique, mais j'ai débuté avec Claude Julien. Donc, le 24 février dernier, Claude Julien, c'est pratiquement un empereur dans le monde du hockey en ce moment. Là, je veux dire, il s'est quand même bâti une bonne réputation dans les dernières années.
Il avait le poste au Canucks de Vancouver, mais il voulait une saison de trop, fait qu'ils ont été vers un autre entraîneur. Mais il a failli être engagé au Canucks qui vient de renvoyer un leur entraîneur, que ce soit par un peu plus tard.
Ouais, en effet. Puis justement, les Canucks, je dirais que c'est contre les Canucks qui a eu un de ses plus grands moments à vie là, en 2011 avec sa conquête à la Coupe Stanley. Avec Boston, il restait quand même de 2007 à 2017. C'est une bonne tranche. Il était avec les Devils aussi,
ouais,
ce que j'ignorais pendant une saison. Donc une fiche de 129-123 en 5 saisons, c'est quand même honorable. Moi, je l'adorais quand même comme... comme coach, mais à l'ancien, c'est un coach à l'ancien.
T'as vu coach, ouais,
une ancienne mentalité un peu. Sinon, un autre avec un très bon caractère, John Tortorella, ouais. 9 mai dernier par les Blue Jackets. Ça, c'était plus une entente des deux côtés, je crois. Mm-hmm. Mais lui, c'est avec le Lightning aussi qui a commencé ça. On le connaît pour toutes ces controverses qu'il y a eu, dont un 20 000 $ pour des commentaires négatifs avec un officiel. Sinon, avec les Canucks aussi, il y avait eu une controverse avec Luongo lors du Winter Classic. Il a été échangé quelques jours plus tard. Plusieurs suspensions, des altercations avec des fans aussi. Donc,
mais
c'est quand même un des meilleurs. C'est l'Américain, l'entraîneur américain là, avec le plus de victoires avec la Violette. C'est quand même pas rien. Mais...
Après, il a coaché Tampa Bay pendant un maudit bout. Là. Il y a eu des bons clubs. Il y a eu les Rangers aussi dans une bonne période. Ça vaut ce que ça vaut. J'ai jamais vraiment aimé Torts. Lui aussi, c'est un coach à l'ancienne, là, très militaire, dictatorial, aussi tyrannesque presque. Là, s'il aime pas un joueur, il va le bencher pendant 10 ans.
Puis on l'a vu avec des joueurs vedettes.
Avec des Patrick Laine qui venait d'échanger pour Pierre-Luc Dubois. Tu liquides ton club, tu t'échanges le meilleur joueur, puis ton retour, qui est un des meilleurs tireurs, franc-tireurs dans la Ligue nationale, tu le benches pendant 10 games. Là, ça va un peu mieux depuis que Torts n'est plus là, justement, pour Laine. Il y avait un excellent début de saison.
Non, ah, pour Torts, il prend de la place.
Torts, c'est un... Sur le genou, tu t'envoies ça aux poubelles. Là. C'est bon, il y a un vieux coach de marque.
One of a kind.
Ouais. Un one-trick pony. Là. Tout à fait. Je suis vraiment content qu'il ne soit plus là. D'ailleurs, maintenant, je pense que...
Penses-tu qu'on va le revoir dans le circuit?
Torts, c'est dans le monde des médias maintenant. Il est analyste, je pense, pour ESPN. Okay. Ou autre.
Je verrais bien un show avec lui, avec Piqué Souben.
Ouais, ça Don Cherry puis lui.
Un show aussi. De télé, ouais. Don Cherry, ce serait bon, là, quelque chose de même. Mais,
plus innocent.
Mais derrière un banc de joueurs, j'en douterais.
Ah non, c'est bon rien, c'est bon rien.
Pas en 2021.
Ouais. Non, ben, plus jamais. Non, fuck off, c'est fini, Torts. Bye bye, va prendre ta retraite à Fort Lauderdale. Yes.
Sinon, je poursuis avec David Quinn, avec les Rangers, le 12 mai.
Oui, c'est vrai.
Suivi de Jeremy Colleton aussi, le 6 novembre avec les Blackhawks. Ben, par les Blackhawks.
C'était deux jeunes coachs, ça, là. Donc, des coachs qui avaient peu d'expérience. Ben, en tout cas, pour Colleton, qui était à sa première saison, je pense, avec les Hawks.
Puis un qui est lié à souci, Joel Quenneville. Ça, c'est dommage, je trouve. C'est vraiment une histoire dommage.
C'est pas dommage.
Par rapport à
sérieusement,
c'est une controverse.
C'est dégueulasse. Personnellement, il fallait qu'il soit renvoyé.
C'est de la grosse
négligence. Pour l'image
de la
ligue, pour l'image juste de la situation, non,
non, je pense que c'est dommage pour sa carrière. Je veux dire, son. Tu sais, moi, avant de savoir ça, c'est un des.
Il y a eu
un peu de compassion, merde.
C'est pas lui non plus qui a commis les actes ou peu importe.
Non, mais il a décidé de se mettre la tête dans le sable.
Non, c'est ça, c'est clair.
Non. Oui, j'ai aucune sympathie. J'abonde dans le même sens que PA là-dessus. Là. Non, no mercy. Non, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse.
Non, je comprends amplement. C'est une grosse controverse qui a détruit complètement sa carrière.
Ouais.
On va s'en tenir à ça. Ralph Kruger, sinon, avec les Sabres de Buffalo, ça, je crois que c'était un bon...
Ouais.
Je crois vraiment pas que c'était le gars de la situation pour une équipe qui a autant besoin d'un grand changement, d'un gros renouveau. Là.
Effectivement. Hey, c'est bizarre ça, Ralph Kruger, parce que lui a eu un premier passage en Ligue nationale en tant qu'entraîneur avec les Oilers d'Edmonton, alors que ça allait vraiment pas bien. C'était l'époque Taylor Hall, Jordan Eberle, puis Nelly Yakupov, ça allait vraiment pas bien. Dans cette période-là, Ralph Kruger a été amené à Edmonton, puis il a décidé, pour revamper l'image de l'équipe, d'enlever toutes les bannières, les posters de Wayne Gretzky, de Marc Messier, de l'époque glorieuse des Oilers dans la chambre puis à l'aréna, parce qu'il dit on voit vers l'avant, on arrête de vivre dans le passé, puis un vrai zélé, là, un vrai Christy d'innocent. Ralph Kruger, t'as plus de job, ben bravo, épais.
Non, puis je crois pas qu'on va le revoir de sitôt non plus.
Je sais pas si tu pensais refaire ta carrière avec Buffalo, mais ça, c'est un cimetière à coach aussi. Là. À part Lindy Ruff qui était là pendant 20 ans, il y a personne qui peut tenir ce poste-là. Là.
Non, c'est
puis là, le club est en reconstruction, c'est mais c'est quand même de bon augure. Il y a plein de bons jeunes là, à Buffalo.
Des excellents joueurs. Power qui va jouer la saison prochaine.
Ouais, c'est ça. En repêchant là, une coupe de premier choix d'affilée, là, Oren Power peut-être bien. Peut-être
mais ils ont
Shane
toujours
Wright.
Eu des bonnes perles comme. Mais ça, c'est juste qu'elles sont brutes, puis ils n'ont jamais eu le bon entraîneur pour.
Non, exact.
Voir les polaires.
Puis là, avec l'échange de Eichel, t'as en retour Alex Stock qui va être vraiment excellent. Peyton Krebs qui est le dernier choix de première ronde des Golden Knights. Puis un autre choix de première ronde. Fait que là, ça va être cool. L'avenir est reluisant du côté de Buffalo. Donc, mais sans Ralph Kruger.
Mais sans Ralph Kruger.
C'est ça, exactement.
C'est ça. Sinon, Travis Green du côté
des
Canucks, le 5 décembre. Ça fait très récent. On a eu un autre aussi récemment. Mais Travis Green, je crois que c'était le prochain move après Jim Benning.
C'était Jim Benning qui méritait de partir. C'était vraiment l'équipe. Il a fait des choix. Il a signé des joueurs trop cher, ça scrappe l'équipe. L'équipe a des bonnes pousses, mais ils sont peut-être obligés de se débarrasser parce que justement, ils n'ont pas d'argent pour les payer. Puis, tout ça à cause qu'on a pogné des JT Miller, on a pogné plein d'autres joueurs avec des gros contrats qui vont bloquer. C'est un accident de train, les Canucks. C'est mon équipe que j'aime beaucoup, mais ça, on s'en va droit dans le mur présentement. Ça va être encore l'année de reconstruction. C'est les Sabres de l'Ouest.
Quasiment, hein? Puis même les gros canons, là, les Elias Pettersson, Brock Besser, Bo Horvat cette année là, ne produisent pas à la hauteur de leur talent. Quinn Hughes, oui, là, mais sinon. Oliver Ekman-Larsson. Mon Dieu, une vraie vache. Ce gars-là, oui, a un nom, comment dire, populaire dans la ligue, mais il se traîne les pieds. Là. Il y a des briques à la place des bottines. Là. C'est ridicule à quel point il est vache. Là. Puis là, tu l'as échangé pour un choix de première ronde, puis t'as donné un plateau d'or aux Coyotes pour ça. C'est stupide. De laisser partir Chris Tanev. En tout cas, de laisser partir Jakob Markstrom aussi, trop tôt. Des contrats à Tanner Pearson.
Avec Calgary, l'autre saison suivante.
Ouais, c'est ça.
Puis même Oldby, d'avoir cherché ce joueur-là.
Hé, hey, Oldby, pourquoi t'as signé. Tu sais, là, tu l'as laissé partir après. Non, c'est vraiment. Jim Benning était un des pires.
Mais même sur le terrain, Charles Green, je crois pas que c'était le gars de la situation. Tu sais, avec des joueurs comme Elias Pettersson ou.
Ouais.
Il y a quand même des bonnes pièces de joueurs là, avec les Canucks. Là, donc je pense que Travis Green, c'était le prochain move, inévitablement.
Yes.
Et c'est arrivé.
C'est arrivé.
Sinon, une journée après, Alain Vigneault aussi a eu le même sort par les Flyers de Philadelphie. Eux, ils ont été vraiment... Les Flyers, on avait parlé aussi dernièrement que c'est une tendance quand même assez récurrente dans leur cas, de, après une période un peu plus creuse de, ou juste une séquence en fait de défaites accumulées, on va mettre l'entraîneur. Et Michel Therrien aussi qui a pris, pris le bord avec lui.
C'est les deux qui ont été dans un mini-scandale avec Robin Leonard qui a commencé à faire une série de tweets en disant « Hey, tel joueur, il donne des drogues aux joueurs.
Ouais. »
Il y a eu un mini-beef entre les deux.
Pas vu ça passer.
Ouais, Leonard avait accusé.
C'est Therrien ou c'est Vigneault? Je pense que c'est.
Il avait accusé Vigneault.
Il avait accusé Vigneault de donner des drogues pour aider à dormir ses joueurs qui étaient blessés et qui n'étaient pas de manière illégale.
Ouais.
Moi, ça me semble pas légal non plus. C'était.
Puis là, après ça, Vigneault a nié l'information. Puis, bref, il a dit que Leonard était un peu tout croche puis de se concentrer sur sa game et non sur les médicaments. En tout cas, bref. Grosse affaire.
Du drama?
Ouais, mais. Au Flyer, j'aimerais bien ça.
Hey, moi aussi, je pense qu'il est pas encore prêt, par contre. Pour une job de DG, là, il est DG d'un club de East Coast League. Là, on va lui donner une chance. Je pense qu'il a besoin encore de faire ses preuves. Ça fait quoi, 4 ans qu'il a pris sa retraite en Ligue nationale? Je pense qu'on va laisser le temps un peu là, de...
Fresh.
Ouais, peut-être adjoint au GM, par contre. Il pourrait très bien être adjoint au DG. Effectivement.
Et je boucle la boucle avec Rick Tocchet, avec le 9 mai avec les Coyotes par les Coyotes de l'Arizona. Donc c'est quand même le 9e renvoi dans la ligue.
Il a été remplacé par André Tourigny, qu'on aime bien. Gros parcours en Ligue Nord-Major du Québec, entre autres avec les Huskies de Rouyn-Noranda. Un excellent coach. Puis je pense que tu sais, les Coyotes, même chose que Buffalo. À part si on a un avenir en Arizona, là, c'est tellement l'air compliqué, renouvellement de bail, la ville veut pas d'eux autres, là, eux autres veulent plus de la ville, en tout cas, c'est bien compliqué là-bas. Sauf que, sur la glace, puis dans le noyau de jeunes joueurs, l'avenir est assez luisant aussi, là, quand même.
Il y a encore des pièces comme des joueurs de location qui peuvent s'affranchir de celle à l'île des transactions. Je pense à Phil Kessel.
Eh oui, fou.
Tu rajoutes ça dans ton équipe pour faire un dernier boost pour aller dans les séries.
Au printemps, Phil Kessel va être échangé, c'est sûr. Puis on va avoir un choix de première ronde pour. Hey, ils sont allés chercher un choix de première ronde pour Christian Dvorak.
Ouais.
Mais Chris de bon move. En tout cas. Je regardais
c'est
un match.
C'est encore jeune, le gars de 27 ans, je crois.
27 ans.
Pas,
c'est pas si jeune que ça.
Ben, le gars le plus jeune à être à la tête de la.
Ah oui, John Cheka.
C'est ça,
oui.
Ben, c'est quand même jeune pour le poste, pour le rôle.
Effectivement. je me demandais, je pensais que tu parlais d'un joueur, ça a le joueur le plus jeune, il a 27 ans. Tu sais.
Ben non. Non. Ben, okay.
Mais oui, John Cheka. Sauf que je regardais un match la semaine passée, et puis j'écoute. C'est vraiment parce que dans mon pool, j'avais plein de joueurs. Là, mais
c'était toi, ce gars-là.
J'ai écouté un match hier. J'étais le seul qui a écouté un match. C'était le seul match aussi. Non, Anaheim contre Arizona. Les Ducks contre les Coyotes. Les Ducks
relativement bien. Fait que, comment? Ça doit être un bon match.
Les c'est Ducks. Un crispy de bon match. Ouais, puis en plus, ça a fini comme 6-5 en overtime. Là. Clayton Keller là, fait la pluie et le beau temps sur une patinoire, c'est cave. C'était le meilleur joueur sur la glace, même avec les Trevor Zegras de ce monde. Là, il est vraiment, vraiment phénoménal, surtout qu'il est mal entouré, à part Kessel qui se traîne les pieds un peu. Il a vraiment pas beaucoup d'aide, Clayton Keller, puis c'est un magicien. Là, donc, éventuellement, j'espère qu'il sera mieux entouré parce que c'est un joueur de concession.
C'est 5 contre une équipe qui est présentement à la première position avec les Golden Knights.
5-4 ou 6-5, je sais pas. C'est, en tout cas, match cette semaine. Bref, c'était un sapristi de bon match. Donc, je pense que les Coyotes ont un bel avenir. Je leur souhaite, en tout cas.
Dans 5 ans.
Un avenir à Québec, mettons. Ça serait le fun.
Selon moi, c'est plus à Houston, à Québec.
Ouais, c'est ça.
Je pense pas que ça va se produire, mais à Houston, ça c'est possible. Ou peut-être à Temple, en Arizona.
Ben oui.
S'ils construisent leur arena, mais.
Oh, on est optimiste, limite utopique.
Mais il y aurait eu beaucoup de bretage dans le payage de factures, là, il paraît. Puis,
c'est con, hein?
Non, c'est une histoire à se tirer les cheveux un peu, mais en même temps, ils se sont mis les pieds eux-mêmes dans ce type-là.
C'est quand même un club de 500 millions, là, genre,
c'est un club de 500 millions, puis on parlait tantôt des équipes qui ne se font pas aimer présentement par leur base partisane. Le très peu qui reste de partisans en Arizona, l'équipe est en train de détruire ce climat-là. J'espère qu'il reste en Arizona parce que c'est quand même un des plus gros marchés américains en termes de publicité. Ça peut être énorme. Puis Houston, oui, c'est un autre marché intense et intéressant, mais ça va être plus par avoir sa propre équipe. Tant qu'avoir, on va en mettre une équipe dans l'Est, une équipe dans l'Ouest. Peut-être Québec, on ne sait pas, peut-être. Ouais. Mais ouais. Définitivement...
Puis avec les Stars les... aussi, ils vont splitter ouais, un
puis y a
peu.
Déjà un club,
ils vont
moins avoir un club au Texas, c'est ça. Tu sais,
il y a déjà
Stars.
Un club au Texas, mais le Texas, c'est gros.
Ouais,
c'est
je sais bien.
Énorme. C'est, on a la population de Houston. Tout le Québec quasiment est dans Houston et dans sa banlieue périphérique. Donc, c'est un très gros marché et une très bonne rivalité à la base.
Il y a deux clubs de balle, deux clubs de basket. Deux clubs de foot. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a du stock, là.
Le triangle du Texas, c'est un très gros marché. On oublie souvent San Antonio, prochaine équipe qui va avoir peut-être une équipe de football avec peut-être Toronto et Londres.
C'est clair.
Définitivement un gros marché.
Effectivement. Effectivement. Les gars, je pense qu'on a fait le tour du hockey. Ce qui nous amène justement, on a parlé un petit peu du Texas. On pourrait parler de baseball.
Oh yeah!
Yes, sir.
Oh.
Je pense qu'on a été à l'unanimité. Réjoui de la victoire des Braves à la Série mondiale cet automne.
Ben oui.
Je pense que c'est un club que... En fait, c'est difficile de détester ce club-là.
C'est très difficile, mais c'est un club mal aimé. Ils ont perdu leur meilleur joueur, puis ils ont réussi à se rendre là. Mmh. C'est magnifique.
C'est surtout vu leur adversaire, là, que tout le monde, je crois, est encore plus content qu'ils gagnent.
Ben, contre Milwaukee, ils ont des excellents artilleurs, mais c'était l'équipe à la frappe, c'est rien. Il y a Yelich qui ne frappe plus.
Les Braves, à la base, c'est une équipe qui a eu 88 victoires, je crois. Ouais. C'est ça, c'est plus que...
C'est l'équipe la plus faible.
C'est moins que des équipes qui ont même pas fait les séries dans la Ligue américaine. Genre c'est quand même vraiment surprenant.
Ouais,
surtout sans Ronald Acuna Jr., si on va en parler, là, c'est un miracle.
Oui, vraiment. Ce club-là.
Ça termine bien l'ère Freddie Freeman aussi, je trouve.
Ben là, ça,
non, Freddie Freeman devrait être reçu.
Ça, c'est son affaire.
Ouais. Trois petits points.
Je pense que les Braves n'ont pas vraiment le choix de re-signer Freddie. Puis. Au salaire qu'il veut, là, je pense que c'est un peu l'image de ce club-là depuis vraiment longtemps aussi. Depuis quoi, 10 ans déjà?
Depuis 10 ans, c'est lui qui fait la plus de beau temps. Il y a Acuna qui commence à prendre ce spot-là. Mais définitivement, Freeman, c'est excellent. Mais après, je le vois mal dans une autre équipe.
Ben, c'est ça, exactement. Il n'y a pas un club qui pourrait accueillir Freddie Freeman.
Les Yankees, présentement, leur choix, c'est d'aller échanger, puis aller chercher Matt Olson, puis l'autre...
Rizzo.
L'autre, Matt Olson et l'autre. Le premier but, c'est Chapman. Ils veulent aller chercher les deux. Ça ferait un méchant beau diamant à New York. Mais
c'est sûr. Après, il va falloir payer le gros prix. Là. Mais oui, bref, les Braves, victoire contre les Astros, le club de poubelle. On était très contents ici à la conduite antisportive. Justement, en parlant de diamant, là, celui des Braves est un des plus beaux dans la Ligue en ce moment. En tout cas, je trouve que la fin de saison a démontré... une chimie dans cet avant-champ-là, entre autres avec Ozzie Albies.
Ozzie Albies, oui.
Hey, Dansby Swanson a vraiment éclos. Là. C'est devenu le joueur...
C'est l'année que Dansby Swanson et Austin Riley, qui se sont...
Ouais.
C'est leur année.
C'est leur année, tout à fait. Sérieusement, Dansby Swanson a joué comme un premier choix au total.
Oui.
À la hauteur de son talent, de son potentiel, pour vrai, phénoménal. Austin Riley aussi, mon Dieu, au troisième coussin, ce gars-là a un bras de canon, là. Et ben, il frappe super bien, il frappe pour 300, la puissance. Son swing me fait penser énormément à Mike Trout. Peut-être un swing très compact, là. Il y a des espèces de similitudes avec les deux joueurs. Très beau club, les Braves, franchement.
Mais tu sais, Dansby Swanson s'est réveillé, mais je le mets pas encore dans le top 15 des meilleurs shortstop de la Ligue.
Non, mais ça s'en vient.
Ça s'en vient. Aller chercher Jorge Soler qui faisait rien au Kansas City, qui était relativement bon, mais qui performe en série.
Qui est le meilleur joueur de la série mondiale. MVP de la série mondiale, Jorge Soler. Il a été, comment dire, décisif, tranchant lorsque ça comptait.
Adam Duvall.
Adam Duvall aussi, on l'a ramené des Marlins à date limite, super. Travis d'Arnaud qui est blessé toute l'année, qui revient pour les séries aussi. Ça a bien fait. Les étoiles étaient alignées aux autres aussi. Tant mieux.
Ah, puis de plus surprenant, c'est la série antérieure avec contre les Dodgers, je veux dire.
Oui.
Les Dodgers, on s'attendait à les voir les Dodgers, pratiquement encore en finale.
Ont hypothéqué le bras de Mark Scherzer en jouant beaucoup trop contre les Giants, qui était un excellent match, le pire finish d'un match que j'ai vu cette année, c'était la décision de prise contestée. par l'arbitre pour terminer le match. Ça a fait mal. Après ça, il a lancé 4 matchs après ça contre c'est pas contre les Braves, c'est contre. Contre
les Giants.
Oui. Excusez-moi, j'ai fait un gros erreur, mais c'était.
Giants, c'est durant le wild card.
C'est contre les Cardinals qu'il y a eu un match.
Les Cards, c'est vrai.
Que ça finit sur un home run.
C'était quoi déjà? Un genre de 1-0, là, 2-0. mais c'est le circuit d'Austin Riley, non, ça?
Non, c'est pas Austin Riley, ça, c'est Atlanta.
Oui, oui.
Mais non, il a fini un coup de circuit en série mondiale. C'est pas Jock Peterson, c'est. Parce que lui, il est avec.
Ah raisons. Oui!
Chris Taylor?
Je pense que c'est Chris Taylor.
Ouais,
Taylor,
en bas de 9e.
Ouais, en bas de 9e qui frappe un coup de circuit.
Puis entre les deux séries, ouais, c'était contre les Brewers.
Je parlais des Dodgers. Les Dodgers, eux autres, ont joué après ça contre qui était une des excellentes équipes.
Contre les Giants.
Un très beau combat contre les Giants. Ils ont eu une série de 6 matchs contre les Giants avec le dernier match qui était. 7 matchs. Ça finit en 7 séries. Ouais. J'en oublie mon baseball, c'est ça que ça fait les fins de session, désolé.
Ben ça fait longtemps qu'on n'a pas joué de baseball aussi. Ouais,
ça
fait justement.
Là, je la donnais aux Giants. Je la voulais aux Giants, en fait.
Ouais.
Je dirais.
Ce fut aussi une sacrée belle course au MVP dans l'américaine entre Shohei Ohtani et Vladimir Guerrero Jr.
On a assisté cette année vraiment à quelque chose qui arrive une fois aux 100 ans.
Probablement, probablement.
Un lanceur-frappeur qui est vraiment dominant dans les deux. J'ai jamais vu ça.
Puis depuis l'ère moderne, ça se fait pas. C'était Babe Ruth qui le faisait avant, puis tu sais, ça compte pas. Là. C'était pas. Je veux dire, le sport est complètement différent. C'est difficile de comparer les deux. Là.
Non, il fait pas juste le faire. Il excelle à ça en
mais
plus.
C'est ça.
Il excelle de. Il bat tout le monde qui passe leur carrière à bâtir juste sur un des deux aspects du jeu. Lui, il bat tout le monde sur les deux aspects. C'est, je veux dire, personne peut pas ne pas être impressionné par ses statistiques que le voir plus souvent qu'autrement à la télévision, mais
exact.
Le voir jouer, c'est impressionnant.
Ouais, puis justement, si Shohei Ohtani décidait de seulement lancer, en tout cas du moins l'année dernière, il aurait certainement pu atteindre le nombre de manches minimum pour être éligible au Cy Young. Mm-hmm. Et il aurait peut-être été même nommé ou dans la liste top 5 ou top 10 là, à la limite. Là.
Dans l'américain, oui, je le vois.
S'il avait décidé de juste lancer, là, parce on s'entend, là, il saute toujours un tour de rotation là, parce qu'il frappe. T'sais. C'est un peu c'est un peu démesuré tout ça. Je pense qu'éventuellement, pour la suite de sa carrière et aussi pour son corps, parce que c'est un gars qui est assez fragile, surtout là, aux épaules et tout ça, il devra faire un choix. C'est triste parce que c'est un phénomène, là, ce qu'on voit. Là, mais
c'est un phénomène aussi. Non seulement il faudra qu'il fasse un choix, mais dans une équipe qui va de nulle part. Ils ont Mike Trout. Il y a Rendon qui est excellent cette année, qui a été un peu
qui
plus...
Qui était blessé, par contre, c'est ça. Rendon aussi, ça va pas. Là.
Et Trout Ohtani, tu fais même pas les séries. T'es même pas proche de faire les séries.
Mais on n'a jamais eu une rotation proche d'être...
Syndergaard cette année va être un beau.
Et si Syndergaard est en santé, il a manqué toute l'année. C'est encore vrai. Là, tu sais. Syndergaard a mentionné en signant avec les Angels qu'il voulait que Trout, qui est le meilleur joueur de sa génération, gagne éventuellement une série mondiale. Est-ce que, je veux dire, l'apport
de
Syndergaard.
Quelque chose, point. Je veux dire, la dernière fois que je me souviens, les Angels, c'est en 2014
qu'ils ont fait la série.
Contre les Orioles, je crois.
Ouais.
Puis les Orioles ont dû passer. Ou...
Les Orioles ont passé, mais il me semble que c'est après ils ont joué contre Toronto.
C'est ça, c'est pas glorieux quand tu. C'est le moment que tu viens d'eux, là, c'est ça.
Les Orioles de 2014 avec Trumpo.
C'était une belle année, par contre.
Ah, ben les Orioles étaient impressionnants, là, dans ce temps-là.
Ouais, Machado.
Mais justement, on remonte loin.
Marc Arquette était très fort aussi à ce moment-là, Nick Markakis. Mais oui, bref, grosse année de baseball, pour vrai, je suis encore réjoui de tout ça, c'était le fun.
Des éléments un peu tristes aussi, on parle présentement, sont en négociation et ça mène nulle part.
Ouais.
Le Cy Young de l'année passée qui
hey, oui, c'est ça. On en a parlé un petit peu dans l'autobus tantôt en s'en venant, PA. Trevor Bauer, hein, de héros à canceller, de héros à zéro, de héros à manger une marde.
Mais présentement, il a gagné son procès.
Ouais.
Il devrait rejouer, mais c'est à savoir si une équipe veut l'avoir.
Ben, c'est ça.
Il ne retournera pas avec les Dodgers, c'est clair.
Son nom est sali à tout jamais, là.
Il faudrait probablement une équipe avec une marge salariale vraiment très minime, puis qui ont besoin, qui prennent ce genre de joueurs-là, un peu comme les Expos faisaient à l'époque. Ils prenaient des joueurs qui problématiques et ils les faisaient jouer. Tu sais, Pascual Lopez, qui était un excellent joueur, mais qui était vraiment trop problématique par tout ce qui allait, Montréal avait signé ce genre de joueur-là. Donc, une équipe qui a besoin d'un peu de.
D'attention.
Ils vont chercher ce joueur-là. Je pense peut-être les Rangers du Texas pourraient être un excellent choix pour lui.
Ouais, les Rangers qui veulent gagner à tout prix, là, que ce soit avec des gens problématiques ou non.
Ils ont décidé que c'est go time.
C'est go time cette année. Ouais, d'ailleurs, on peut en parler un peu parce qu'ils ont quand même signé Corey Seager.
Ils ont
signé Marcus Simmons. John Gray aussi, en sortant des Rockies.
Un des deux qui a vraiment fait, qui a très bien fait au Coors Field.
Ouais, malgré un stade de frappeur. Bref, Trevor Bauer à suivre. Je lui souhaite que du malheur. Sinon, même si c'est un gars que j'aimais avant, là, on s'entend son podcast aussi, je l'écoutais quotidiennement. C'est un gars fascinant qui avait pas la langue dans sa poche, mais bon.
Ses chaussures, Joe Kelly.
Les deux, ouais, les dessous de tout ça, c'est de la merdouille pour Trevor Bauer. Hey, tu parlais de Montréal qui signait des joueurs problématiques au baseball. Oui. Ça me fait penser, parce qu'il y a eu un événement assez marquant cet été aussi, alors que Marc Bergevin et Trevor Timmins, qui ne sont plus là, ont décidé de repêcher un certain Logan Mailloux avec leur choix de premier tour, 29e au total. 30e au total. En tout cas, whatever.
Ben, peut-être Montréal était dans la nostalgie et voulait faire l'époque des trois amigos des années
2000.
Puis il cherchait ce genre de joueur qui pourrait être problématique. Il disait, ce gars-là a des problèmes. Bon.
Qui pourrait être notre Mike Ribeiro, là? T'sais, c'est qui notre prochain Mike Ribeiro? Ça va être Logan Mailloux. Non, mais pour vrai, à quoi ils ont pensé? Je veux dire, le club de hockey canadien n'est pas un centre jeunesse. C'est pas un centre pour jeunes à problème qui envoie des dick pics puis des nudes de filles au secondaire. Là. C'est quoi cette affaire-là? C'est bol. Je veux dire, ça makes no fucking sense. Là. Cette signature-là, ben, ce repêchage-là avait pas de bon sens.
Tu sais, je vais pas parler du Canadien. Veux, veux pas, ce petit gars-là, oui, il mérite d'avoir une chance. Il mérite. Il a 17 ans, il a fait des problèmes. Il s'est fait accuser là-dessus. S'il prend du temps pour lui pour réagir à ses émotions, puis pourquoi ce n'est pas correct, puis il se développe là-dessus, il a quand même juste 16-17 ans. Des conneries.
Ah, puis c'est beaucoup de pression.
Mais d'être repêché cette année-là par le Canadien, c'est ça qui est problème. C'est pas Logan Mailloux, oui, est problème pour qu'est-ce qu'il a fait.
Oui, oui.
Mais son développement, ça reste à faire. Et puis éventuellement, il mérite peut-être de jouer
dans C'est un kid de 17 ans, 17-18 ans, là, maintenant il y a peut-être 18, sauf que, effectivement, tu vas éventuellement avoir une carrière, t'es un des meilleurs prospects au pays, fais attention à ton image. Ouais. Tu sais, il est banni de la Ligue de l'Ontario, là. Il joue même pas en ce moment, là, Logan Mailloux, là, tu sais. Bon. Pourquoi t'as repêché ce gars-là? Je comprends pas.
Montréal se sont dit, il va être bien épaulé, on va le mettre avec Jonathan Drouin.
C'est ça.
Juste penser à l'image, puis je me trouvais drôle.
Ouais.
Oh, Aline.
C'est même... tout le club d'hockey canadien va être dans le protocole de...
Même si lui, il est plus vieux, là, mais tu sais, même avec Galchenyuk dernièrement aussi, tu sais, il y avait eu des problèmes pas mal.
Ben oui, mais non, mais c'est clair, c'est, là. Les frères Cossessine qui faisaient de la traction à Madame Hurley.
Ouais,
là,
c'est ça, c'est des. Piquet Subban aussi. Ben c'est des distractions.
Ah, on aime ça. On aime ça.
Ben, Montréal aime ça. Montréal aime ça.
Carey Price est présentement en clinique. Qui est en clinique.
En plus, ça, à chaque année, il y a quelque chose.
Non, clairement. On manque pas de contenu.
C'est fou quand même de te parler de baseball. On avait un peu oublié ça, Logan Mailloux. Hein? C'est aussi la mauvaise presse pour le Canadien, on s'entend, là, d'associer le nom de l'équipe à ce jeune-là. Si Logan a droit à un deuxième sens, je suis d'accord, PA.
C'est le dernier clou du cercueil de Marc Bergevin.
Ah, je pense que oui.
Clairement.
À Timmins et à Bergevin aussi. Clairement, je suis d'accord.
Right.
Je suis d'accord parce que je peux pas croire que Jeff Molson endossait ce choix-là. Là. Ça venait clairement de Bergevin et Timmins. Là, en tout cas.
Le fait qu'elle s'excuse, je pense qu'en tant que propriétaire, elle a fait. Ben là, j'ai. Ouais, selon moi, c'est là qu'a fini l'amitié entre Molson et Bergevin.
Tout à fait.
D'ailleurs, Bergevin, est-ce qu'il va. Selon vous, ça va être quoi sa prochaine équipe? Est-ce qu'il va retourner dans la ligue?
Je pense pas, moi. Je pense qu'il va, se la couler douce un peu. En tout cas, un petit bout, là. Au moins un an.
Je le vois bien avec les Canucks, moi.
Tu vois bien avec les Canucks?
Je le vois avec Vancouver.
Surtout qu'on parlait de ça, Joe, il y a quelques semaines. Il a fini sa carrière de joueur avec les Canucks. Il a joué 7 matchs.
C'est vrai, il a joué 7 matchs avec les Canucks. Ben, tant qu'à tu le verrais plus avec les Blackhawks. Ou je le renverrais avec son bon ami Philippe Dano avec les Kings.
Ouais.
Je t'ai pas signé, mais je m'en vais avec toi.
Ouais, bonne chance à Marc Bergevin pour se trouver du boulot. On finit la tranche hockey parce que je veux parler un petit peu de tennis.
Oui.
Il y a eu plein d'événements cette année aussi, là, dont l'avènement, l'éclosion d'une sacrée bonne joueuse québécoise du nom de Leila Fernandez qui a atteint la finale du US Open. On en a parlé un petit peu cet été. Moi, je trippe sur elle. À chaque fois que je peux en parler, j'en parle. Elle a battu Simona Halep, à l'époque qui était première mondiale dans ce tournoi-là, pour atteindre la finale. Sérieusement, c'est une des meilleures joueuses de tennis que le Québec a vécu, sinon la meilleure. Et ben dans un monde du tennis féminin où Bianca Andreescu est blessée plus souvent qu'autrement depuis 2 ans, c'est de loin le plus bel espoir, la plus belle prospect du tennis canadien. Je vous souhaite beaucoup de succès, Leila Fernandez. Ce qui m'amène aussi à parler de la controverse, la polémique entourant Peng Shuai, joueuse de tennis chinoise, qui est sortie dans les médias il y a peut-être 1 mois et demi, 2 mois. Joe, on en a parlé aussi, ici à la Conduite Antisportive. Peng Shuai qui a dénoncé, accusé un des hommes les plus influents au pays de l'avoir agressé, de l'avoir violé, alors que c'était sa maîtresse il y a quelques années. Et depuis, Peng Shuai est introuvable. C'est quand même assez fou, cette histoire-là. Ça aussi...
Introuvable, entre guillemets. Entre guillemets. On a eu beaucoup d'indices ou de fausses indices. C'est ça, on sait
on
pas
ne l'a pas vu physiquement, on ne l'a pas vu visuellement, non, par vidéo. Son Twitter a été activé récemment. Pendant près de 2 semaines, on n'a pas eu de nouvelles de Peng Shuai. Après ça, elle a fait une sortie sur Twitter comme quoi elle était en sécurité, mais on s'en sait pas plus, on l'a jamais vu, on l'a pas revu.
Mais on a des nouvelles de dernière heure quand même, là, qu'elle aurait tout dénié ça, finalement.
Ah ouais.
Là, ça rend encore l'histoire.
Ben, c'est encore plus
confus.
Non, ça n'a pas rapport. C'est un peu, c'est plus qu'épeurant ce qui se passe en Chine en ce moment. Bref. Moi, ça m'a vraiment choqué, cette histoire-là, parce que à quel point on peut envoyer des humains aux oubliettes parce qu'ils ont exprimé.
Et comment on remercie tout ça? Jeux olympiques sont lieu présentement au mois de février.
C'est cave, c'est très cave. Puis là, évidemment, il y a plein d'agences puis de pays qui boycottent les jeux. Est-ce que les jeux vont être boycottés à la grandeur?
On va savoir si aujourd'hui ou demain si les joueurs de la Ligue nationale de hockey pourront y aller.
Ouais.
Ça va être un dossier à suivre, ça va être intéressant.
Ouais.
Pas intéressant, plus ou moins, dans le sens...
Fascinant.
Fascinant, ouais.
Entre guillemets.
Plus qu'intéressant.
Hey, on a le dernier sujet, les gars. Après ça, c'est la fin de notre rétrospective de l'année.
Quelque chose que j'aimerais bien cette année pour le tennis féminin, c'est que je sais, un des trucs qui a été les populaires cette année, c'est la série sur la F1 qui suit à chaque année les pilotes de course et sur Netflix. Et la popularité de la F1 explose présentement.
Yes.
Tout le monde en parle. Des amis que je pense qu'ils écoutaient jamais, qui ont jamais écouté du sport selon moi, commencent à écouter ça, puis c'est malade. J'aimerais qu'il y ait ce genre de série-là pour le tennis féminin, qu'ils suivent chacune des joueuses, puis qu'on voit un peu s'affronter, puis voir un peu ses drames, parce que le tennis, c'est un duel, et de voir plusieurs joueuses qui se parlent entre elles, je pense que ça ferait du bien pour parler un peu plus du tennis féminin. Mais je voudrais parler aussi de la F1. Non seulement ils ont eu cette série-là Netflix pour les aider, mais une des séries les plus intense au championnat. Pour la première fois depuis sa création, la dernière course était sur une égalité à la première position.
Ben oui.
On parle du multiple champion Lewis Hamilton avec sa Mercedes et aussi un de mes préférés que je pensais pas qu'il allait se rendre là, mais Verstappen avec chez Red Bull.
Max Verstappen,
le néerlandais. Une excellente course qui a fini sur à Abu Dhabi sur une décision un peu douteuse des officieux. Ils ont décidé non, tu continues plus. Mais bref, une excellente fin de course. Je conseille énormément. La saison prochaine de la série F1 sur Netflix devrait être encore meilleure, juste pour voir ce duel là. Donc c'était mon segment de la F1.
La F1.
Ouais.
Hey, c'est ce qui nous amène à écouter Driving Under Stars de Marika Ackman, tune de Noël reliée à la course automobile. Joe, merci d'avoir été là, plus souvent qu'autrement, en ma compagnie, en studio. Merci PA. T'as été là quand même souvent malgré ta session. Je l'apprécie. On a même enregistré des segments alors que t'étais en voyage, à l'étranger au début de la session, à Columbus entre autres.
Hey, j'ai été poigné là-bas peut-être 2 mois.
Merci les gars, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes.
Merci à
toi. Du plaisir, ben du fun avec vos 10 meilleurs copains, avec vos 10 membres de la famille. Joyeux temps des fêtes et bonne année.
Oui.
Hey, je vous souhaite bien du succès dans vos études, les petits gars.
Ben, merci à tous.
Toi, t'en as plus d'études, Joe, mais c'est pas
moi,
grave.
Moi, c'est fini.
Je te souhaite bien du drag.
Terminé. Thank you.
Yes.
Bonne année. Ciao,
bye.
Ciao.
Bye.
Bonne année, les auditeurs.
Bye, bonne année.
Chiz 94.3 FM, Québec.
T'as envie d'une solution clé en main pour dénicher les meilleures nouveautés musicales? Facile! Suffit d'écouter le Démineur. Chaque lundi soir, je fais un tour d'horizon des meilleures sorties musicales de la semaine, tous styles musicaux confondus. Aucune raison de te perdre dans le flow des sorties musicales. Écoute Démineur, ton phare dans la nuit. C'est un rendez-vous les lundis soirs dès 21h sur les ondes de Chiz 94.3.
Les enjeux de santé te préoccupent? À ta santé, c'est ton émission de radio qui t'en apprend davantage sur la santé globale en te faisant découvrir des experts, des professeurs, des étudiants et des travailleurs passionnés. Entre Planète et Stéthoscope, rejoins-nous un jeudi sur deux à 13h sur les ondes de Chiz 94.3 et en balado-diffusion sur www.chiz.ca.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Sur une distance de 20 verres, la Coupe Vanier au bout du pied.
C'est le but! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Parmi nous, les plus riches, ils sont...